Vous écoutez France Culture.
Réplique, culture et mondialisation avec Hervé Juvin et Gilles Lipovetsky. Hervé Juvin et Gilles Lipovetsky viennent de publier dans la collection Nouveau Collège de Philosophie chez Grasset un livre à deux voix, L'Occident mondialisé, controverse sur la culture planétaire. Ils me paraissent donc tout indiqués l'un et l'autre pour commenter cette dépêche parue il y a quelques jours dans la presse sans susciter la moindre réaction. Lors d'un déplacement au Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé plusieurs mesures pour la valorisation et l'encouragement du jeu vidéo. Parmi ces mesures figure l'inscription du jeu vidéo dans une démarche patrimoniale qui associera la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma, Universcience et d'autres acteurs publics et privés. Que signifie cette nouvelle démarche patrimoniale? Que révèle-t-elle? Témoigne-t-elle de notre entrée dans l'âge d'une hyperculture universelle, brouillant les anciennes dichotomies, économie imaginaire, réel, virtuel, culture commerciale, haute culture? Gilles Lipovetsky.
Oui, ça me paraît indéniable. L'époque de cette culture planétaire, c'est celle qui voit se développer le tout patrimoine. On voit que tous les produits, les objets entrent dans le cycle de la muséification. Il y a même en Bretagne un musée de la crêpe, c'est tout dire. Et donc qui témoigne d'une sorte de réinvestissement du passé dans un âge où le présent est de plus en plus l'axe temporel dominant. Mais en même temps, ce que traduit ce phénomène-là, c'est que ce culte du passé est repris dans la logique du présent. Dans une logique du présent, une logique qui tend à revaloriser les régions, les pays, les villes, à travers le passé. Et donc, ce que ce tout patrimoine signifie, ce n'est plus le culte du passé en tant que tel, mais évidemment une manière de transcrire la culture dans une perspective de valorisation économique, voire politique. Alors, en ce sens-là, oui, je pense que ce que j'ai appelé avec Jean Sirois dans un livre précédent, la culture monde, ou la culture planétaire, eh bien une culture qui déstabilise, qui dérégule les oppositions, les dichotomies traditionnelles de l'économie et de la culture. Pour dire les choses très vite, de plus en plus la culture est un instrument marchandisé et même un vecteur extrêmement important de la vie économique. Aux États-Unis, les produits culturels sont devenus le premier poste d'exportation, c'est devant l'aéronautique. Et simultanément, les marchandises elles-mêmes sont de plus en plus culturalisées au travers du design, de la publicité, etc. Donc, cette culture planétaire, en tout cas au niveau où on se situe ici, met en œuvre un processus de dérégulation qui est d'une certaine manière isomorphe à la dérégulation macroscopique que l'on voit à l'échelle de l'économie.
Oui, mais alors, vous parliez d'une patrimonialisation de tout. Et du passé, notamment, vous citiez le musée de la crêpe, mais moi je trouve que le musée de la crêpe peut avoir quelque chose d'assez émouvant. L'inscription du jeu vidéo dans une démarche patrimoniale, c'est un peu différent, parce qu'il s'agit d'un instrument d'abord, d'un médium tout à fait actuel, et qui est déjà patrimonialisé. Donc si j'avais à choisir personnellement, je me rendrais assez volontiers à un musée de la crêpe, j'aurais plus d'hésitation pour un musée du jeu vidéo. C'est-à-dire que ce soit déjà muséalisé, ce jeu dont on peut penser que ses rapports avec ce qu'on entendait autrefois par culture sont un peu délicats, ça va trop vite pour moi.
Oui, mais en effet, c'est-à-dire que les produits aussitôt lancés entrent dans le cycle de la patrimonialisation. Mais après tout, ce qui autrefois paraissait comme purement marchand, la publicité, il y a maintenant un musée de la publicité, il y a un musée du jouet, il y a toutes ces logiques, ces processus qui autrefois paraissaient comme strictement marchands et qui entrent là-dedans. Maintenant, c'est vrai que ce qui est tout à fait caractéristique, c'est cette vitesse avec laquelle tout est muséifié. Mais on pourrait dire la même chose pour la chanson. Dès qu'un chanteur disparaît, au bout de 3 ans, on va le muséifier. Il y aura des cycles pour revivre sa mémoire, etc.
Hervé Juvin.
Je trouve notre ministre de la Culture bien timide. Dans un récent papier d'un grand hebdomadaire anglo-saxon, on allait jusqu'au bout en disant qu'il suffisait de supprimer l'école et le système d'enseignement, de laisser aux enfants la disposition illimitée d'Internet et des jeux. Ça leur apprendrait beaucoup mieux le monde tel qu'il est, et ça leur apprendrait beaucoup plus les interactions, le réseau de relations qui sera leur pain quotidien dans les années à venir. Donc, il faut probablement aller jusqu'au bout.
Je trouve vous avez lu ça où?
Je crois que c'est dans Newsweek. Je crois que la question que vous posez et cette décision illustre assez bien la confusion que je vois monter, à laquelle je crois que Gilles n'est pas totalement absent, qui est la confusion entre les outils et entre la main qui les tient. Les outils de la culture sont en train de se multiplier. Le marché mondial des outils de la culture est effectivement devenu l'un des premiers postes d'exportation marchande et, pour le dire clairement, l'un des premiers postes d'influence. Le soft power ou le smart power américain s'en nourrit. La question qui me paraît posée par les jeux vidéo est tout à fait simple. Les jeux vidéo, c'est un poste important de succès et d'exportation de la France. On a raison de le soutenir. Est-ce que les jeux vidéo traduisent ou soutiennent une culture, c'est-à-dire une singularité? Et je crois que la question est posée de manière extrêmement simple parce qu'il est en train de sortir ici ou là en Turquie ou ailleurs. Le jour où le jeu vidéo ne dit pas « il y a de bons occidentaux qui partent à l'assaut de méchants terroristes », le jour où un jeu vidéo sort et propose au public mondial « le but c'est d'arriver à éliminer le plus de marines possible », on verra bien que ce n'est pas le produit qui tient la main. En d'autres termes, les produits culturels ne disent pas quel est le contenu et ne disent pas quel est l'usage qui en est fait. Et je crois qu'il y a une confusion extrêmement dommageable à cet égard.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un contenu subtil et profond des jeux vidéo? Est-ce qu'on ne se dirige pas, en effet, vers un monde où il y aura d'un côté les jeux vidéo dénonçant le méchant terroriste au nom de la croisade du bon Occident, et puis de l'autre, des jeux vidéo dénonçant le grand Satan occidental et exaltant la révolte contre lui des damnés de la Terre. Et au fond, c'est-à-dire, ce sera la confrontation de deux manichéismes où la culture, au sens que l'on donnait autrefois à ce mot, n'aura strictement aucune part. C'est d'où ma stupeur de voir le ministre de la Culture donner son imprimature aux jeux vidéo. Hervé Juvin.
Alors, les jeux vidéo prêtent certainement à une interprétation très manichéenne, très blanc ou noir du monde.
Oui.
Il n'y a pas que les jeux vidéo qui prêtent aujourd'hui à une interprétation en blanc ou en noir du monde. Et ce que je voulais montrer, qui m'apparaît essentiel à notre débat, n'oublions pas que la pelle de jardin qui sert à jardiner, qui sert à aérer les fleurs, les Hitlerjugend en faisaient un outil pour tuer les gens. N'ayons pas la naïveté qui consiste à dire, comme on l'entend trop souvent, c'est la grande soupe mondialiste. Internet est un merveilleux outil de la communauté, les jeux vidéo c'est un excellent outil de la relation humaine, et tout ça va produire une planète unifiée dans la paix et la bonne humeur pour tous. C'est absolument pas cela. Je pense que l'humanité se caractérise par sa diversité et que la singularité des sociétés humaines va s'emparer de ces outils et va les habiter. On voit bien ce qui est en train de se passer en Asie, et il se trouve que je reviens de 2 semaines de travail en Asie. L'Asie est en train de s'approprier, avec une fantastique rapidité, tous les outils, que ce soit le capitalisme, que ce soit le marché, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone portable, etc. Mais pour en faire les outils de quoi? De sa puissance et de sa singularité dans le monde. Pas du tout pour se banaliser. C'est pourquoi je suis relativement inquiet à court terme, parce que nous sommes en train de brûler la diversité des sociétés humaines, mais les plus fortes sont en train de réagir, de s'emparer des outils de la modernité, et elles vont en faire des outils de leur singularité.
Gilles Lipovetsky, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que vous voyez au contraire dans la culture monde un processus d'unification finalement universalisant un certain nombre de valeurs essentielles, la démocratie et les droits de l'homme?
Il y a, je crois, dans cette culture monde deux processus. Un, c'est le processus d'unification planétaire à travers le marché, les techniques, les médias, l'individualisation, la consommation, les marques, tout ça se généralise sur la planète. Cela étant, ça ne produira pas une culture homogène. Je crois que cette logique d'unification trouve ses limites. Ses limites, c'est les langues, les nations, les religions, les formes de cuisine et bien d'autres choses. Je crois donc que nous devons être attentifs au fait que la culture monde, ce n'est pas que la culture des aéroports, la culture du marché, que les cultures nationales, religieuses, ne sont nullement en voie de disparition. Elles recomposent des formes d'identité sans que pour autant ça conduise, je crois, à avoir une lecture d'affrontement inéluctable de ces cultures.
Hervé Juvin, vous êtes d'accord avec ça? Non.
Ça n'est pas nécessairement une lecture d'affrontement inévitable. Je crois que nous allons revoir l'insurrection de la différence et je crois que nous sommes de nouveau sur la quête absolue des identités singulières. Je crois que la plus grande bêtise a été dite récemment par Tony Blair à ce sujet. Nos valeurs sont universelles et partout où les hommes ont le choix, ils les adoptent. Je pense que c'est un préjugé ethnocentrique absolument insupportable et je crois que les outils que nous appelons les outils de la modernité et dont nous attendons cette unification, cet aplatissement du monde qu'a défini Friedman, je pense qu'ils vont être occupés et mobilisés exactement pour l'inverse. Je pense que les cultures diverses sont en train de se les approprier et vont en faire les outils de l'expression de leur singularité et de leurs identités propres.
Oui, mais restons-en à nos valeurs. Quand Tony Blair s'exprime dans ces termes, il parle de la démocratie, des droits de l'homme, de l'économie de marché. Simplement, nos valeurs, c'était aussi la culture, une certaine idée de la culture, le fait, comme l'a écrit Kundera, de faire de la culture, après la religion, donc à partir de la Renaissance, la valeur suprême. Et cela, me semble-t-il, semble disparaître. La culture, avec le culturel, n'a plus de limite, n'a plus de définition. Gilles Lipovetsky l'a dit d'entrée de jeu. Tout est patrimonialisé, tout devient culturel. Dans un livre intitulé « La grande déculturation », Renaud Camus dit de la culture ce détour, cette façon d'aller voir chez les morts, entre les livres, entre les tombes, ce qu'il en est de nous-mêmes, du monde et de la vie. Entre les livres, entre les tombes, c'est une allusion discrète et merveilleuse au cimetière marin, ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Tout cela, qu'en reste-t-il? C'est-à-dire, que reste-t-il, autrement dit, de notre singularité dans les outils et dans les contenus qui se répandent aujourd'hui sous le nom de culture monde? Et j'ai envie de vous demander aussi, que reste-t-il des autres singularités? Que reste-t-il de la culture japonaise elle-même? De Kurosawa, par exemple, ou de Mizoguchi? Donc il y a aussi cette question, quand même, que la culture monde pose. Peut-être, tout cela va-t-il se déchirer? Mais est-ce que ce ne sera pas quand même au détriment d'une autre idée de l'universel? Hervé Juvin.
Une autre idée de l'universel, très probablement, ou la fin de ce que nous avons appelé l'universel. Ce que j'essaie de dire à travers ce débat, c'est que nous ne savons pas quelles vont être les conséquences de la mondialisation. Nous ne savons pas quelle va être la conséquence de la diffusion planétaire, du satellitaire, d'Internet, etc. Et nous sommes totalement aveugles à ce que ça met concrètement en jeu dans la vie des gens, dans leur représentation, et pour reprendre ce que vous avez dit, dans leur dialogue avec leurs livres, avec leurs morts et avec leur terre. Nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds. Nous n'en avons pas fini avec les origines. Nous n'en avons pas fini avec notre condition politique, qui est celle de la circonscription. Ça compte de savoir avec qui on fait société, ça compte de savoir avec qui on se projette dans l'avenir, et sur qui on peut compter pour être de son côté. Les conditions fondamentales de l'expérience humaine, naturellement la pellicule des moyens de la communication, naturellement la pellicule de la mondialisation, vient quelque part la troubler, mais ça n'est que la surface de l'eau. Dans ce que je constate, parce que j'ai l'occasion et de vivre et de travailler et à Madagascar et en Asie, l'essentiel de la manière dont les gens vivent, dont les gens s'aiment, dont les gens se projettent, elle reste extraordinairement territorialisée et localisée. Et je crois que nous sommes absolument aveugles sur les conséquences de tout ce que vous décrivez. J'ai simplement un point d'inquiétude. La violence avec laquelle, dans mes villages du sud de Madagascar, arrive le développement, arrive le téléphone portable, et on se prive de manger là-bas pour s'acheter des unités de téléphone portable, c'est une violence tout à fait considérable. Cette violence-là ne sera pas sans retour. Et je crains que la violence des affirmations identitaires et la violence de la séparation ne soient à la hauteur de la violence avec laquelle nous, Occidentaux, avons diffusé et imposé ces modèles à ceux qui n'y étaient pas prêts.
Bon, ce mot de violence pour des outils qui forment justement le socle de ce que vous appelez l'hyperculture. Mais comment y réagissez-vous à ce mot?
La modernisation des sociétés a toujours été violente. Elle a été perçue comme telle dès le XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Le XXe siècle lui-même, à bien des égards, les formations totalitaires sont des formations ambivalentes qui ont une certaine nostalgie parfois du passé. Et donc l'arrachement à la tradition, au pouvoir de l'Église, etc., a toujours été vécu dans la violence. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose de nouveau. Je crois qu'il faut quand même pas perdre de vue que, en dépit de tout ça, en dépit de ces singularités dont vous parlez, qui en effet, moi, je pense que ça ne disparaîtra jamais complètement, il faut pas perdre de vue les processus universels qui quand même gagnent sur la planète, l'usage des techniques qui changent les comportements des gens, se servir d'un téléphone, prendre la pilule, conduire en voiture, etc., aller dans un hypermarché, ce sont des phénomènes qui, même dans les pays désormais, enfin qui sont des économies émergentes, travaillent ces pays-là. Ça va gagner. La deuxième chose, alors pour revenir sur la question de la culture qui était au départ le problème, je crois que cette culture monde, cette hyperculture, ne doit pas être assimilée comme la mort de la culture. Je crois que c'est une ritournelle qu'on ne cesse de développer. Déjà dans les années 60, on parlait de mort du cinéma, des choses comme ça. Je crois que on est un petit peu, on perd le phénomène parce que il y a une surproduction culturelle. Et dans cette surproduction culturelle, nécessairement, il y a une masse de choses qui sont marquées par l'identité, la répétition, la redite, le mimétisme. Mais ça n'exclut nullement des formes d'innovation, ça n'exclut nullement de vrais créateurs. Je crois que les vrais créateurs, il y en a toujours eu peu. Je crois que l'avenir, ce sera pareil. Simplement, ils sont plus ou moins noyés dans une surproduction qui, elle, est typique de l'époque.
Oui, mais alors, Gilles Bovetsky, vous parlez de cette ritournelle. Et moi, j'avoue que je chante cette ritournelle depuis un certain nombre d'années, mais précisément, vous aussi, depuis l'ère du vide. C'est-à-dire que vous en prenez aux critiques de la culture monde, mais vous présentez en même temps un réquisitoire implacable contre ce phénomène. Votre défense est la pire des accusations. Ce que vous dites, pourquoi se fait-on tant de soucis? Mais on s'en fait encore plus quand on vous a lu et quand vous dites, par exemple, que la valeur esprit a été remplacée, citation de Valéry, par le fun, le sport, le divertissement, les médias et les voyages, la vitesse de l'information. Personne ne se plonge dans Pindare ou dans l'œuvre de Dante, dites-vous. Bon, alors déjà, c'est un constat qui peut paraître assez effrayant, parce qu'il concerne aussi les Italiens. Peut-être s'ils se plongeaient plus dans l'œuvre de Dante, ils n'auraient pas tendu un tapis rouge à Berlusconi. En tout cas, c'est le cas. Mais vous dites, ils vont au musée. On dit, alors on se rassure. On dit, ben voilà, la culture se déplace. Non, on ne peut pas se rassurer en vous lisant. Parce que les œuvres, dites-vous, ne sont plus contemplées. Elles sont consommées, avalées de manière extraordinairement rapide dans le brouhaha des foules touristiques pressées. La durée moyenne d'arrêt devant une œuvre d'art dans un musée ou une exposition est de 6 secondes. De l'art, on n'attend plus une élévation de l'âme, mais une récréation immédiate. Et vous ajoutez, toutes les esthétiques du passé peuvent être contemplées, plus rien ne fait véritablement sens, ne reste que le plaisir touristique de l'hyper-consommateur, sans passé extérieur à sa propre histoire, frayant d'émotions passagères, de tout et de rien. C'est pire encore que les descriptions d'Hannah Arendt dans La crise de la culture. Donc, on a le sentiment, vous décrivez la débilité contemporaine, et puis vous en faites, alors que vous êtes absolument lucide, l'apologie. Donc, cette ritournelle, ben oui, elle est la vôtre, Gilles Lipovetsky.
Attendez, il y a deux choses. Il y a l'aspect de la consommation de la culture, et il y a l'aspect des producteurs, des créateurs. La discussion que nous avions précédemment, c'était sur la création. Parce qu'il y a un débat là-dessus, en disant que le monde économique tue la création. Dans le cas du cinéma, par exemple, c'est un vieux thème. Les capitaux sont tels qu'il n'y aura plus de création, etc., etc., et que les médias aujourd'hui ne valorisent que les best-sellers. Donc, du coup, il n'y aura plus de création véritablement culturelle. C'est sur ce point-là que je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y aura toujours des créateurs. Bien. Maintenant, en effet, sur le plan de la consommation culturelle, il y a la description que vous avez eu l'amabilité de lire, je la revendique totalement. Je crois qu'elle correspond parfaitement à ce que Paul Valéry appelait le déclin de la valeur esprit, et qui fait que là où la culture était au sommet, disons en tout cas symbolique de notre monde, ça ne l'est plus. C'est devenu quelque chose comme le reste. Alors, est-ce qu'il faut crier que c'est quelque chose d'épouvantable ? C'est là où j'essaye d'être peut-être un peu plus modéré, parce qu'après tout, dans les sociétés antérieures, qui avait accès à cette haute culture ? Il y en avait très très peu. Aujourd'hui, évidemment, le consommateur culturel est plus un consommateur qu'un amoureux de la culture. Il passe le temps, pour l'essentiel. Il passe le temps. Néanmoins, ça n'exclut pas des goûts, ça n'exclut pas des avancées ici ou là. C'est donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop tragique de ça.
Qu'en pensez-vous, Hervé Juvin ? Votre vision est-elle tragique ?
Ah, ma vision n'est pas tragique, j'ai essayé de vous le dire. Ma vision est au contraire assez résolument optimiste, parce que je crois que les moyens de la culture que vous évoquez, les moyens de la culture et les marchés de la culture vont et peuvent se transformer en outils, en moyens de la singularité. Je voudrais revenir sur cette notion de marché de la culture. Tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est de ce qui s'échange et de ce qui se paie. Dans la vie de la majorité des hommes et des femmes de cette planète, l'essentiel de leur vie, l'essentiel de leur raison de vivre et de mourir, continue d'être des choses dominées par la gratuité. J'ai été frappé tout à fait récemment, je travaillais à la Bourse de Bombay. La Bourse de Bombay, il n'y a pas de lieu où il y a une telle concentration d'intelligence, de MBA, de diplômes acquis partout dans le monde. Un des jeunes garçons avec qui je discutais, MBA, passage en France, quatre langues parfaites. Dès que nous entrons un peu dans l'intimité, je suis brahmane végétarien, je vais me marier avec une brahmane végétarienne. Des amis chinois qui parlent parfaitement français, qui ont séjourné dans tous les pays du monde, qui sont totalement cosmopolites ou internationaux. Essayez d'aller parler avec eux de Taïwan ou du Tibet, vous comprenez très vite qu'aussi cosmopolites ou internationaux soient-ils, ce sont là des sujets qu'un Français ne va pas aborder avec eux. Donc je crois que nous nous illusionnons. Beaucoup de gens vont voir les blockbusters mondiaux, beaucoup de gens jouent et passent des heures sur les jeux vidéo, passent des heures avec des amis à l'autre bout de la planète sur Internet. Quand on a besoin d'un ou d'une amie, quand on a besoin de prendre un verre sur l'épaule de quelqu'un, c'est son voisin, c'est ses proches que l'on va voir. Et je crois que nous nous trompons grossièrement, parce que c'est très nouveau, parce que c'est tout à fait inédit, et vous le soulignez bien, on se trompe complètement sur les effets à terme de tout cela. Les particularités, les identités vont les réinvestir, et nous nous illusionnons probablement sur l'effet d'aplatissement du monde de toutes ces techniques. Je le répète, nous pensons que l'outil conduit la main. Ça n'est pas le cas. Simplement, il faut sans doute un peu de moyens pour apprivoiser et pour s'approprier ces outils.
Oui, mais alors, restons chez nous, parce que vous écrivez en tête de votre texte, de cette controverse, culture et mondialisation, il est plus difficile d'être de quelque part que d'être de son temps. Donc, c'est une phrase très belle, en effet, de Pierre-Jacques Elias. Ça dit bien aussi que le conformisme du présent est extrêmement fort et nous arrache à notre propre territoire et peut-être aussi à notre origine, à notre passé. Alors, qu'en est-il de nous-mêmes, de la main et de l'outil? Est-ce qu'on ne peut pas parler des ravages exercés par ces nouveaux outils et ces nouveaux contenus sur l'Europe, sur l'Occident et sur les individus contemporains?
Ah, bien entendu, la guerre qui vient et la guerre qui va sortir de la crise dans laquelle nous sommes entrés, et donc contrairement à tout ce qui se raconte, nous ne sommes absolument pas sortis, c'est la guerre de l'utopie mondialiste, de l'utopie planétaire, du sans-frontiérisme, etc., contre toutes les sociétés constituées. Et je ne parle absolument pas en disant cela de la guerre des civilisations d'Huntington, c'est pas l'Occident contre les autres. Chaque société constituée, chaque identité du monde aujourd'hui est confrontée à cette grande soupe planétaire dans laquelle on veut nous dissoudre. Simplement, la conscience à cet égard est en train de monter tout à fait considérablement. Simplement, on le voit avec le débat autour des réseaux sociaux, on sait bien que tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est sur Twitter, tout ce qui est sur Google, ce sont des outils formidables de la conformité, du contrôle, de la surveillance, puisque rien n'est oublié, rien ne sera pardonné. La conscience de cela va produire son antidote et va produire les effets inverses.
C'est vrai, vous êtes...
On est en train de perdre la naïveté là-dessus. Ce sont des outils de la puissance et ce sont des outils d'un impérialisme. Et la conscience se faisant jour, on voit déjà les antidotes qui sont en train de monter.
Alors moi, je me demande, en lisant Lipovetsky, justement, s'il n'est pas trop tard. Donc finalement, moi, je trouve Lipovetsky tragique et Juvin optimiste. Parce que je lis donc, chez vous, Gilles Lipovetsky, « Aujourd'hui, les jeunes connaissent infiniment mieux les noms de Marx que ceux de l'histoire, de la littérature » ou de la religion. Et vous citez, et ça, c'est, ça m'a absolument abasourdi, ces parents américains qui vont jusqu'à donner un nom de marque à leurs enfants. Chanel, Armani, Porsche, L'Oréal. Donc, bon,
phénomène très répandu en Afrique.
Bon, phénomène très répandu en Afrique, phénomène qui se répand aux États-Unis. On n'en est pas là en France, mais quelque chose de la continuité historique, de l'épaisseur de temps, est en train de se dissoudre aujourd'hui, si on vous lit. Et je ne vois pas de quel espoir cette dissolution est porteuse, Gilles Lipovetsky.
Oui, je rebondis sur le terme que vous avez employé, de terme de ravage. En effet, sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses à dire. On le sait, il y a des hordes touristiques qui vont visiter le monde entier. En même temps, quand les jeunes vont voir leurs propres cathédrales, les cathédrales de la France, ils savent plus lire ce que c'est qu'une cathédrale, parce que la culture monde a totalement éradiqué les repères qui permettaient de comprendre qu'est-ce que c'était qu'une nef, une peinture religieuse, etc. Donc, le consommateur de culture, l'amateur qui va visiter la culture, il n'a même plus les moyens, en quelque sorte, de savoir ce qu'il savoure d'un point de vue purement esthétique. Il est indéniable que l'un des effets déplorables de cette culture monde, c'est la place excessive, hypertrophique de la consommation. La consommation, il ne faut pas la diaboliser. Simplement, lorsqu'elle prend une telle place dans la vie des gens, dans la conscience, dans les imaginaires, c'est en effet quelque chose qui est préjudiciable et qui a des conséquences en chaîne sur la conduite des individus. Alors, pourquoi néanmoins je résiste à une vision trop noire des choses? C'est que ça, c'est une tendance forte, peut-être dominante, sans doute dominante, mais il y en a d'autres. Il y a des réactions face à ça. il y a, par exemple, tout un ensemble de gens considèrent aujourd'hui que le temps passé devant la télévision est excessif. Les parents ne laissent pas indéfiniment les enfants devant la télévision. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et surtout, je crois que ce qui vaut pour la culture, au sens traditionnel du terme, ne vaut peut-être pas quand même pour tous les aspects de la vie. La consommation, elle a un effet de déterritorialisation des individus. Elle enclenche des processus de recul par rapport aux traditions, par rapport aux forces des institutions collectives. Bref, ça contribue à l'individualisation des individus. Et je crois que, par rapport à notre question de la singularité, on peut penser que malgré tout, cette culture monde, elle tend à éradiquer les grandes singularités culturelles globales, mais je pense qu'elle tend à diversifier davantage les individus. Les individus dans leur mode de vie, dans les exemples que vous venez de donner, il sera macrobiotique, il fera de la gym, il s'habillera de telle ou telle manière. Il y a les perspectives de vie, y compris chez nous, sont extraordinairement plus divers parce que les cultures de classe ont été érodées par ce raz-de-marée consumériste.
Oui, mais c'est là probablement, Gilles, où l'utopie de l'individu sans racines, de l'individu nationalisé, de l'individu indéterminé, ça donne toutes les illusions de l'autonomie, sans aucune des capacités d'être réellement individu, c'est-à-dire d'être réellement libre et réellement autonome. L'homme est autonome et il est libre à travers des sociétés ou à travers des collectivités dotées de leur unité propre. Je pense que c'est la grande question politique des années à venir, retrouver la circonscription politique qui permet de se projeter dans un avenir commun et qui redonne les conditions d'autonomie. Alors, par rapport à ce que vous disiez, il y a deux exemples qui vont dans un sens différent. Interroger Mythique, le propriétaire ou les responsables de Mythique, le site de recherche bien connu. Tous vous diront, ce fait tout à fait troublant. La majorité des gens qui en réalité se rencontrent et qui en réalité vivent des aventures, comme par hasard, c'est des gens qui habitaient à moins de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres les uns des autres. Naturellement qu'on peut parler, on peut chatter à l'infini avec des gens à 1000 km, c'est quand même plus pratique d'aller prendre un pot dans le bar d'en face. Vous savez que le programme européen Erasmus donne lieu exactement aux mêmes choses. L'idée, j'allais dire l'idéologie européenne derrière le programme Erasmus, c'était tous ces jeunes gens, ces jeunes filles, étudiants, ils vont se rencontrer, ils vont être à Sienne, ils vont être à Madrid, ils vont être dans le Danemark, et tout ça, ça va faire une génération d'Européens et d'Européennes. C'est absolument le contraire. Un Breton, un Alsacien, un Catalan ne se sent jamais plus Breton, Alsacien ou Catalan que quand il est confronté à d'autres Européens. Ils sont naturellement amis, mais ça le renvoie à ses origines, ça le renvoie à son identité.
Mais se sent-il français ou que reste-t-il d'une identité comme celle de la France précisément à un moment où la transmission culturelle, l'école, est en crise ? Si vous voulez, vous dites les identités, c'est la source de votre optimisme, vont résister. Elles ne vont pas se laisser dissoudre dans la grande soupe. Ces grumeaux-là, c'est tenace. Je vois pas comment. Je vois pas comment si précisément la transmission elle-même ne se fait pas ou se fait de plus en plus mal. Donc cet individu indéterminé, il naît sous nos yeux.
Ce que vous évoquez, Gilles, est à mon sens un des phénomènes politiques les plus lourdement à l'œuvre dans le monde et en particulier dans l'Europe d'aujourd'hui. On le voit bien avec le traitement de la crise grecque. C'est que nous avons voulu, et le mondialisme, le sans-frontiérisme, a attaqué la nation comme le lieu de tous les maux du monde. On ne s'est pas rendu compte que quand on faisait sauter le couvercle de la nation, les déterminants des individus, ça redevient leur origine ou ça redevient leur croyance. Et je n'ai jamais entendu en France autant de gens se définir par « je suis catholique, je suis musulman ou je suis protestant » de la même manière que je n'ai jamais entendu en France autant de gens se définir par « je suis alsacien ou je suis breton ». Je suis moi-même breton. Mais je n'ai jamais entendu autant de gens se définir par leur origine ou par leur croyance parce que quand on enlève le couvercle de la nation qui était très précisément l'intégration dans un tout et dans un projet commun, on retrouve quoi ? On retrouve l'origine et on retrouve la religion.
Mais une origine peut-être aussi largement fantasmée, dès lors précisément que les individus vivent au présent. C'est-à-dire que c'est quelque chose se perd, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est le droit à la continuité. Tous les droits de l'homme se déclinent, mais celui-là se défait. le droit à la continuité. Et la nation instaurait une continuité.
Gilles, vous décrivez là
une... Alain Finkielkraut.
Alain et... Mais Gilles...
Non, Alain Finkielkraut. Moi, je veux le nom et le prénom. Allez-y, pardon.
Vous décrivez là une exception bien européenne. Croyez-vous que pour un American citizen, ça ne soit pas une particularité fondamentale de sa personne que d'être un citoyen américain ? Croyez-vous que pour un Chinois, y compris un Chinois de la diaspora, ce n'est pas une particularité fondamentale de sa personne d'être Chinois ? Je crois qu'on s'est raconté un conte de fées en Europe à cet égard, et probablement qu'on va en vivre les fruits très amers dans les années à venir.
Gilles Lipovetsky.
Oui, mais il faut quand même, dans la description que vous faites, on a l'impression que du coup, il n'y a rien de nouveau. Il faut bien quand même que cette culture planétaire, elle a des effets. En Europe, par exemple, ces effets, on le voit bien, depuis 50 ans, il y a une érosion quand même des cultures nationales, de cette continuité dont vous parlez. On dit on est basque, on est breton, mais c'est quoi être un breton aujourd'hui ? Quelle est la substance profonde de ça ? Ça peut être une invocation, c'est comme un nom.
Est-ce que c'est une marque ?
C'est une, oui, d'une certaine, certaine manière, mais qui n'a plus de, qui n'est, parce que quand on vit à Brest, est-ce qu'on vit vraiment de manière différente, avec des repères différents de celui qui vit à Orléans? Je suis pas sûr. Est-ce que il y a des rebonds des identités? C'est indéniable sur le religieux. Mais ce sont des phénomènes minoritaires, en général, qui secrètent des phénomènes de violence, qui peuvent aller très loin. Mais il me semble quand même que cette culture monde, elle travaille à déstabiliser, elle érode les grandes dichotomies, les substances identitaires qui étaient autrefois extraordinairement marquées et pour lesquelles il y avait des logiques sacrificielles qui les accompagnaient. On pouvait mourir pour la France aujourd'hui. Je ne suis pas absolument certain que ça aurait beaucoup d'écho. Et en tout cas, même si dans une situation nouvelle, ça pouvait se produire, les gens pourraient, je crois, se battre. En tout cas, il n'y a plus d'hymne à un sacrifice pour la nation.
Éric Juvin.
En effet, ce que vous évoquez est totalement absent de notre expérience contemporaine. Je voudrais simplement vous livrer cette expérience personnelle. J'ai été extrêmement frappé dans le Beyrouth des années 70 de constater avec quelle rapidité, dans l'un des pays célébrés partout parce que multiconfessionnel, multiethnique, dès que l'on commence à avoir des problèmes sérieux et dès que l'on commence à se tirer les uns sur les autres, il faut donner son mot de passe, il faut savoir de qui vous êtes cousin ou apparenté parce que vous êtes mort très vite. Je crois que nous nous trompons collectivement et nous nous racontons un conte de fées sur le fait que tout ça a disparu. J'espère que nous ne revivrons pas les moments où il faut donner son mot de passe et montrer patte blanche. Ça peut revenir très vite. Et je crois que l'on se fait une illusion sur le fait que ces mécanismes-là peuvent se recréer avec une extraordinaire violence. Rappelez-vous le Liban, le pays du cèdre, célébré partout. C'est un pays multiconfessionnel, c'est un pays multiethnique. Et c'est l'exemple même de la modernité. C'était dans toutes les écoles de France dans les années 70. On a basculé avec une rapidité extraordinaire.
Oui, mais on pourrait donner d'autres exemples. On pourrait prendre l'exemple belge ou l'exemple tchèque.
Bien sûr.
Il y a eu, en effet, ce que vous dites sur les problèmes identitaires, néanmoins, 100 gouttes de sang.
En Belgique, on ne sait pas ce que ça va donner.
Oui.
Goutte de sang, c'est un peu déplorable en même temps. Mais je ne voudrais pas que nous soyons totalement enfermés dans l'alternative entre culture monde, donc culture unificatrice, et singularité ou identité. Il y a quand même autre chose. Il y a ce qu'était ou ce que pourrait être encore le plaisir esthétique, la réception d'une œuvre d'art en tant qu'elle ne relève pas de la consommation, la passion de comprendre, le désir de connaître, l'élargissement de notre mentalité, l'approfondissement de notre écoute et de notre regard. C'est aussi tout cela, me semble-t-il, qui est en question aujourd'hui. Et moi, j'aurais un seul reproche à vous adresser, Gilles Lipovetsky, après tout, que vous trouviez des vertus à cette culture monde, pourquoi pas? Et puisque depuis l'ère du vide, quand même pas n'importe quel titre, vous la décrivez avec clairvoyance, vous ne trompez personne. Simplement, ce que vous dites sur l'éducation m'a beaucoup frappé. Vous dites que sa grande ambition, ce serait être non pas simplement d'acquérir des savoirs fondamentaux, de fréquenter des œuvres immortelles, mais d'encourager les désirs de création, les passions actives en tout genre, booster les potentiels multiples des jeunes, et cela dans les domaines les plus variés, dessin, vidéo, nous retrouvons le début de notre émission, musique, mais aussi bien le travail, l'entreprise ou l'action philanthropique. Et quand vous dites musique, je doute que vous pensiez à ce qu'on appelait, il y a 20 ans encore, la musique et qui n'était pas la musique de variété. Donc je me dis, mais après tout, non quand même, pourquoi demander ça à l'école? Précisément, ne doit-elle pas être le lieu de la résistance à cette alternative? Affirmation identitaire ou culture monde. Et ce faisant, donc, oui, un lieu où les morts puissent, les grands morts puissent avoir la parole. C'est la vieille ritournelle.
Oui, non, mais je ne récuse pas la nécessité de cette formation qui est de plus en plus nécessaire avec le web monde qui nous... sursature d'informations et face auquel on a plus de repères pour lire le monde. Donc l'école a un rôle absolument capital de, sinon le mot de résistance, le mot est peut-être un peu fort.
Oui, je suis d'accord avec vous.
D'apporter ce que justement le web, la télévision, la consommation n'apporte pas. C'est là l'œuvre de l'école. Et d'ailleurs, j'insiste dans ce passage en disant qu'il faut réinventer une sorte de culture générale, une culture d'histoire qui permet de penser le monde dans la perspective. Donc c'est pas du tout le temps précipité de la télévision ou de la consommation. Il faut que l'école redonne du temps au temps pour penser. Simplement, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde? Est-ce que l'école n'a pas aussi pour fonction de permettre aux êtres plus tard de résister à la consommation?
Pour
résister à la consommation, encore faut-il en avoir les moyens. Et je pense que on ne fera pas reculer la consommation par la haute culture. C'est peut-être là un point qui nous sépare. Je crains que pour la majorité des gens, la fréquentation des grandes œuvres ne soit pas suffisante pour détrôner l'univers consommatoire. Ce qui peut sinon le marginaliser, en tout cas lui donner une place un peu moins importante, c'est si vous êtes emporté dans la vie par un certain nombre de passions actives. Tout simplement, ce que tout le monde sait bien, lorsque vous avez le goût de faire des choses, ben, la consommation c'est moins important, parce qu'on fait des choses. Et donc je trouve que l'école aurait aussi intérêt à permettre aux jeunes de s'investir dans des tâches, c'est pour ça que je ne vous donne pas de précision, mais des tâches multiples dans lesquelles leur passion créative puisse se réaliser. C'est ce point-là qui me semble important.
Alors Hervé Juvin, pour revenir aussi à cette question de l'alternative, hein, culture-monde ou affirmation identitaire, est-ce qu'on n'est pas menacé plutôt aujourd'hui par la conjonction des deux phénomènes? Je cite une nouvelle fois Gilles Lipovetsky, « Dans nos nations, même les plus démunies, qui ont intériorisé désormais les valeurs consuméristes, sont devenues des sortes d'hyperconsommateurs, en particulier d'images et de médias. » D'hyperconsommateurs d'images et de médias, qui affirment aussi leur révolte identitaire. Est-ce que c'est pas ce phénomène-là qu'on voit se manifester aujourd'hui, par exemple, dans les quartiers sensibles, dissensibles, des villes européennes, des professeurs vilipendés, et parfois pire, c'est tous les jours, précisément parce qu'ils gagnent 1500 euros par mois dans ce monde de l'hyperconsommation, et en même temps, je dis mon identité, je refuse une appartenance à une nation décrite comme coloniale et post-coloniale. Est-ce que c'est pas ça la menace du temps présent, Hervé
Juvin? D'abord, Alain, vous témoignez en effet du bouillonnement identitaire. Nous n'en avons pas fini avec les questions du collectif, et nous n'en avons pas fini avec les questions de l'autonomie de l'individu ne s'exerce qu'à travers une communauté constituée et une communauté capable de projets. Je ne suis pas sûr que votre question, et je ne suis pas sûr qu'une grande partie de notre débat ne soit pas déjà du passé. C'est finalement un débat de nantis, c'est finalement un débat de société riche, et c'est finalement un débat dans lequel la croissance et l'aisance permettent de se comporter comme des atomes, permettent de se séparer du collectif et permettre de très peu penser au long terme, parce qu'on vit si bien aujourd'hui qu'on peut s'en passer. C'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Les conséquences de la crise, il ne faut pas s'y tromper, c'est des effets de faillite personnelle, c'est des effets d'appauvrissement collectif. Et la question pour une génération à venir, sans doute en Europe, ne va pas être comment on partage les fruits de la croissance. Ça va être comment simplement on maintient notre pouvoir d'achat et comment on fait face à des engagements de payer qu'on a multipliés dans tous les sens, qui ne sont absolument pas financés et dont on ne sait pas, absolument pas comment on y fera face. Enfin, il y a plusieurs fois les subprimes américains dans la bulle sociale européenne. Dans ces conditions-là, l'avenir est écrit. La condition politique s'est nouée quand le besoin de survie collective a obligé les gens à s'organiser, à se doter d'un pouvoir et à se battre en commun. Et on est au bord de cela. Si on veut pouvoir se projeter dans les 20 ans qui viennent, il va savoir ce qui nous unit, il va falloir décider ce qui nous permet de combattre en commun et ce qui établit un projet commun. Je crois que c'est la grande tâche du politique des années à venir. Elle n'est pas en train de se dissoudre dans la mondialisation. Au contraire, les pires ennemis de nos peuples, ce sont ceux qui nous vendent la soupe planétaire, la soupe sans frontiériste, et qui disent que nous ne sommes plus que des atomes et des clones dans un monde parfait.
Oui, mais il y a peut-être aussi un ennemi intérieur. Comment va-t-on faire si existe, disons, à une échelle toujours plus large, des consommateurs identitaires, si je puis dire ? Parce que c'est aussi ça qui se répand sous nos yeux. Des gens avides de consommation et avides d'identité simultanément. Et alors là, si nous assistons à cette transformation de ce qu'était autrefois la nation, le peuple, en multitude de consommateurs identitaires, on va faire comment ? Hervé Juvin.
Grande question politique pour les années à venir. Très certainement, on a cru qu'il y aurait une identité européenne qui substituerait aux identités nationales. Ça ne marche pas, c'est la preuve. Et on se rend compte que quand on a fait sauter le couvercle de l'identité nationale, on a toutes ces identités communautaires, partisanes et quelquefois violentes qui se manifestent. C'est clair qu'on a un travail de remise en ordre. C'est clair qu'on a un travail de définition de projet collectif. Et c'est clair qu'on a aussi un travail d'affirmation de soi sans complexe mémoriel tourné vers le futur, infiniment plus fort que tout ce qu'on a fait dans les années à venir. Enfin, nous devons sortir de la honte, nous devons sortir du péché originel et nous devons sortir du péché des origines.
Mais est-ce que nous en prenons le chemin ? Un débat sur l'identité nationale a été lancé, il a été arrêté net et ce qui s'est exprimé majoritairement, c'est l'idée selon laquelle le thème même de l'identité nationale est répugnant ou nauséabond, comme si toutes les identités étaient légitimes, sauf l'identité de la France, en France.
J'espère que ceux qui ont naufragé le débat sur l'identité nationale se rendent compte d'avec quoi ils jouent. Je crains pour ma part, et je l'ai dit, je crains pour ma part que quand on refuse de travailler, quand on refuse d'affirmer une identité nationale, on soit très proche d'affirmer les identités ethniques ou les identités religieuses qui sont aujourd'hui la réalité de la France qui vient.
Est-ce que vous voulez intervenir sur ce thème, Gilles Lipovetsky ? Comment vous avez vécu tout ça ?
Je pense que le fond de l'affaire, c'est que la consommation et l'individualisation ont une face heureuse et il y a une face anxiogène. Il y a les deux. Et l'individualisation produit également de l'anxiété, de la dépression, parce que ça déconnecte l'individu du collectif. D'où, inéluctablement, à l'avenir, nous aurons des phénomènes de recomposition identitaire qui ne seront pas forcément sur le plan de la nation, qui seront sur des plans sectaires, sur des micro-groupes. Des communautés, d'où le communautarisme qui accompagne ces phénomènes-là. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces communautarismes ne conduisent pas à des affrontements terribles à l'intérieur de nos nations, mais rien ne l'exclut. Je pense même d'ailleurs que l'époque des grandes violences, des guerres entre les grandes nations me semble peu probable. En revanche, je pense que nous pouvons avoir des guerres intérieures.
Des guerres civiles, en un mot. Des sortes de guerres civiles. Bien, écoutez, nous terminerons ce débat entre deux optimistes sur cette note inquiétante. Je rappelle le titre de votre livre, et donc deux contributions, Hervé Juvin, Gilles Lipovetsky, suivi d'une discussion, L'Occident mondialisé, controverse sur la culture planétaire. Il est publié chez Grasset et j'ai cité La grande déculturation de Renaud Camus qui était publié naguère chez Fayard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre l'éblouissant Chesterton, et mes deux invités sont Jacques De Witt et Alberto Manguel. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde, à la technique Marie Tran. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.